Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Propulsé par mademoiselle.com.
Ça swing.
20 ans. Qui es-tu à 20 ans? Est-ce que t'es une vieille ado? Une jeune adulte? C'est quoi ta place dans le monde? Avoir 20 ans, ça représente quoi pour toi? Sûrement pas la même chose que pour moi, que pour lui ou que pour elle. Bienvenue dans 20 ans d'âge, le podcast qui donne la parole aux fraîchement débarqués dans la vingtaine. Ici, on rassemble des histoires et des expériences toutes riches et différentes des gens de 20 ans. J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois.
Alors, moi, je m'appelle Sarah et je suis une micro-entrepreneuse de 20 ans depuis mi-septembre, donc c'est tout tout récent.
C'est vraiment super récent.
Ouais.
Et ça veut dire quoi, micro-entrepreneuse?
En fait, c'est auto-entrepreneuse, mais voilà, ça a changé, je sais pas pourquoi, mais...
Ah, c'est juste le nom qui a changé.
Ouais, c'est juste le nom qui a changé, mais en soi, c'est auto-entrepreneur et en fait, j'ai lancé ma boutique en ligne d'articles zéro déchet, Cousu Humain, par moi-même, et voilà.
Ce que je pose en général comme question aux gens de 20 ans d'âge, c'est est-ce que t'attendais d'avoir 20 ans? Est-ce que c'était un peu une étape pour toi? Est-ce que c'était un âge que t'attendais d'atteindre?
En vrai, ouais. Vraiment, quand j'étais petite, j'attendais vraiment d'être plus grande, majeure, pour faire tout ce que j'ai envie, parce que voilà, quand on est petit, on est sous l'autorité des parents et on fait pas forcément ce qu'on veut. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment juste après le bac où je me suis dit c'est bon, je vais habiter loin, je veux faire ma vie. Et voilà, donc j'ai déménagé toute seule avec mon copain pour faire mes études, etc. Et voilà, après...
Et ça s'est passé comme t'imaginais, la vie d'adulte?
Pas du tout. pas du tout. Parce que en fait, moi, j'ai eu mon bac et du coup, après, je suis allée à la fac. Et quand je suis allée à la fac, je me suis pris une énorme claque. Parce que je m'y attendais pas du tout.
Ouais.
Ça m'a vraiment pas plu. Genre... c'était vraiment pas pour moi la fac, alors que tous mes profs, même mes parents, ils m'ont vendu ça comme si, voilà, tu vas faire des longues études, après tu vas faire un beau métier, très rémunérateur et tout. Et quand je suis à la fac, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Il y avait des maths partout, alors que c'était pas non plus mon truc de. Voilà. Et du coup, j'ai abandonné la fac et je me suis tournée vers des études plus courtes, parce que juste après mon année de chaotique de fac, je me suis dit, moi, mon objectif, c'est je veux créer mon entreprise. Je veux être indépendante et faire un travail que j'aime et ne pas avoir de quelqu'un au-dessus de moi. C'est bête de dire ça.
Oui, en fait, depuis que t'es petite, tu recherches un peu la liberté.
Ouais, voilà, je cherche en fait l'indépendance et me dire... je veux pas, c'est bizarre de dire ça, mais je veux pas recevoir d'ordre, je veux pas d'autorité, je veux vraiment être libre et faire ma vie comme je veux.
Tu veux
tout,
dépendre que de toi-même.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, j'ai trouvé un BTS, le BTS gestion de PME. Et du coup, j'ai fait ça et à la fin de mon BTS, je me suis dit, c'est bon, je me lance, je fais mon entreprise et voilà. Quand j'en parle, j'ai du mal à y croire que j'ai fait ça si vite, alors que, ouais...
Enfin, et ton compte Insta, c'est ton compte Insta perso, enfin en tout cas de zéro déchet, c'est et pourquoi pas moi?
Ouais, c'est mon blog, ouais.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi ce titre, pourquoi?
En fait, j'ai créé ce blog justement pendant l'année de fac chaotique que j'ai faite. Parce que c'était un peu mon échappatoire, en fait. Je venais d'emménager dans un appartement où je découvrais la décoration, je découvrais les plantes, je découvrais un terrain de jeu énorme pour moi. Et je me suis dit, pourquoi je partagerais pas
tes astuces, un peu.
Ouais, ce que j'aime, etc., mes plantes et tout. Et en fait, moi, de base, je suivais beaucoup de blogueuses, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi je le ferais pas moi? Qu'est-ce qui m'en empêche de le faire? Et du coup, voilà. C'est arrivé comme ça. J'ai pas vraiment réfléchi, parce qu'en plus, moi, je suis pas hyper forte pour trouver les noms des trucs. Donc, quand je me suis dit, et pourquoi pas moi, j'ai fait, ah ouais, c'est bien ça, je vais le faire, je vais dire ça, et voilà.
Mmh. Et du coup, tu y mets tout ce qui est décoration, et comment ouais. t'es arrivée à partir de là au zéro déchet? Est-ce que c'est un truc qui te travaille depuis longtemps ou que t'as découvert?
Ben, en fait, si tu veux, genre, de base, moi, j'habitais à Paris, et à Paris, on habitait en banlieue parisienne avec ma maman. Et tout ce qui est écologie, le tri sélectif, etc., je connaissais rien du tout. Enfin, nous, on habitait à Aubervilliers. Et du coup, enfin, il n'y avait pas de tri, quoi. On connaissait pas du tout le tri. C'était vraiment... Et quand on est arrivé dans le sud, eh ben, les gens, ils étaient beaucoup plus intéressés par ça. Genre, quand j'ai habité toute seule, j'ai vu à quel point on faisait des déchets. Et j'ai vu à quel point y avait du plastique partout, il y avait c'était fou quoi, et je voyais à la télé et même sur les réseaux tout ce qui se passe, les glaciers qui fondent, les animaux en voie de disparition, etc. Et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas su ça avant quoi, parce que j'étais pas au courant avant. Et voilà, ça a commencé petit à petit où j'ai appris à recycler du coup. On a créé des poubelles avec mon copain, des bacs dans notre cuisine. Et après, voilà, c'est parti de là quoi. Mm. Après, j'ai appris à faire ma lessive moi-même, à faire mon liquide vaisselle moi-même, à faire plein de trucs. Et on se dit, en fait, finalement, c'est facile quoi. Et
Donc ça fait quoi, 2 ans que tu t'y mets
3 ans.
Trois ans que tu t'y mets petit à petit et puis que de plus en plus. Enfin, t'as de moins en moins de déchets. Est-ce que t'es à zéro déchet aujourd'hui?
Non, pas totalement. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'on vit à deux. Et que même si moi, j'aimerais beaucoup être vraiment zéro déchet à fond, mon copain, c'est pas forcément... lui, il a... Enfin, des fois, il a envie de boire, une boisson. Je vais pas lui empêcher d'acheter une bouteille, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, on fait des concessions chacun. Et petit à petit, je suis sûre qu'on arrivera à zéro déchet. Enfin, c'est l'objectif, en tout cas. Mmh. Vraiment.
Et du coup, moi, ton titre d'Insta, je sais pas, ça m'a interpellée. Et pourquoi pas moi, je me suis dit aussi... ça engage dans la cause écologique de façon personnelle, puisque en fait on attend aussi qu'il y ait des réformes politiques, etc. Est-ce que tu penses que toi c'est efficace aussi de s'y mettre en tant qu'individu plutôt que d'attendre les décisions politiques?
Ah bah oui, clairement. Mais je pense que le gouvernement, c'est un peu le sujet qu'on cache sous le tapis, tu sais, genre. Voilà, il y a des trucs plus importants, mais en fait, je suis sûre que c'est d'abord les citoyens, enfin nous, qui sommes vraiment les acteurs de ce changement, de vraiment, parce que c'est nos habitudes qu'on doit changer, donc c'est vraiment une prise de conscience. Déjà, quand on se rend compte de l'état actuel du climat, etc., enfin, on est obligé de se dire, il faut que je fasse des efforts, et je suis sûre que si chacun fait un peu d'efforts, on arrivera. Voilà, peut-être
Ou en tout cas à influencer aussi les politiques de demain.
Absolument.
Et les gens. Est-ce que toi, du coup, tu as des retours un peu positifs de gens que tu as réussi à toucher?
Ma famille, déjà.
Ah ouais?
Ah ouais, ma famille de fou. C'est vrai que quand j'ai commencé ça, ma famille, ils m'envoyaient des messages genre « Ah, mais c'est trop bien ce que tu fais. Tu fais ta lessive toute seule et tout, mais c'est un truc de fou et tout. » Je dis « Non, c'est juste du savon et de l'eau et voilà, quoi. » C'est... En fait, quand on fait des recherches, quand on s'intéresse vraiment au sujet, c'est vraiment pas compliqué. Et alors que quand on reste juste passif à ça,
ça paraît une montagne.
Ouais, voilà, ça paraît fou, alors que finalement, non, c'est vraiment en fait des habitudes qu'on doit changer nous. Et du coup, ma famille, mes sœurs surtout. Je vois l'une de mes sœurs qui a découvert les cotons démaquillés en lavable, qui dit « Ah, mais c'est génial et tout !» Je dis « oui. »
En plus, c'est économique.
En plus, c'est économique. Tu n'achètes plus de coton et tout. Et même pour les serviettes hygiéniques, elle a découvert ça. Du coup, je lui ai vendu et je lui ai fait tester. C'était un peu mon panel de testeurs, ma famille, ouais, voilà, c'est ça, toutes mes cousines, mes sœurs et tout. Et elle a dit mais c'est trop bien et tout, mais en plus c'est plus agréable et c'est plus économique. Enfin, il y a tellement d'arguments positifs par rapport à ça que par rapport aux serviettes jetables bourrées de produits toxiques, quoi, et vraiment pas bon pour la peau et pour les femmes.
Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu vends et où tu le vends et où est-ce qu'on peut te retrouver, tout ça? Et comment tu le fabriques aussi?
Ouais. Moi, ma boutique, elle s'appelle Éclosion. Et je vends tout ça sur Etsy.com, qui est une marketplace pour tous les artisans qui fabriquent leurs objets. Et je vends en fait tout ce qui est... tous les accessoires zéro déchet qu'on peut coudre, donc à base de tissu. Donc il y a des serviettes hygiéniques lavables, des sacs à vrac, des cotons lavables, de l'essuie-tout lavable. De l'essuie-tout lavable, des petits filets pour laver ces cotons lavables pour pas les perdre dans la machine. Qu'est-ce que je vends d'autre? des pochettes imperméables pour les savons. Parce que quand on est à zéro déchet, on n'utilise plus de gel douche en bouteille, on utilise des savons solides. Mmh. Pareil pour le shampoing et même pour le visage, les savons, tu sais, pour le visage. Donc, quand tu pars, en voyage, t'as ta petite pochette imperméable où tu peux même mettre ton savon mouillé. Et il est protégé.
Ça, c'est super pratique. Parce que...
Ah ouais. Et je fais pareil pour les brosses à dents. Où tu te laves les dents, même si elle est mouillée, la brosse à dents, c'est pas grave. À l'intérieur, c'est imperméable et ça sèche tout seul. Et voilà, donc tout ça.
C'est trop bien.
Voilà.
Et où est-ce que t'as appris à coudre? Est-ce que c'est une passion que t'as depuis petite ou t'as appris en voulant te mettre au zéro déchet?
Alors, en fait, ce qui est fou, c'est que je savais pas du tout coudre. J'avais même pas de machine à coudre, j'avais rien du tout. c'est un jour, ma mère, elle m'a posé la question. Elle me dit, mais tu vas faire quoi après ton BTS? Et je lui dis, je sais pas. Genre, je sais que je veux créer mon entreprise, mais je sais pas de quoi. Et je sais pas, on était sur un marché et je voyais plein de trucs en tissu et tout ça. Je me dis, mais attends, moi j'aime créer des trucs et je veux soutenir une cause qui me tient vraiment à cœur, qui est la planète. Mais si je crée des accessoires zéro déchet, et vraiment c'est sorti comme ça dans ma tête, j'ai envoyé un message, je le sors même à mon copain en disant je veux faire ça et tout. Il me fait vas-y. Et du coup à Noël, ma belle-mère m'a offert une machine à coudre.
Ok, trop bien.
Et voilà, j'ai appris ça, c'était pendant ma deuxième année de BTS. Donc pendant toute de novembre à maintenant en soi, j'ai appris à coudre toute seule avec des vidéos YouTube. J'ai fait mes patrons, j'ai fait des prototypes. Bon, je vais pas mentir, j'ai galéré. Parce que pour moi, la couture, c'est comme la cuisine, ça doit être très précis. Et c'est très cadré, il faut être très rigoureux et c'est compliqué. J'ai eu beaucoup de ratés, mais j'ai pas lâché l'affaire. Je voulais vraiment faire mon truc. Je voulais avoir des produits nickel, de qualité, de bonne qualité, quoi. Parce que, voilà, déjà de mon jeune âge, je sais pas si les gens me prennent vraiment au sérieux. Mmh. Alors, je veux vraiment proposer des produits qui sont vraiment de bonne qualité.
Pour être irréprochable et qu'on fasse passer avec...
Je veux être vraiment perfectionniste sur ça et je veux... Voilà.
Okay. Et qu'est-ce que ça fait du coup de se lancer en tant qu'auto-entrepreneuse alors qu'on est en pleine crise économique?
Ça fait flipper. De fou. Vraiment, vu que j'ai fait mon BTS, on fait de l'économie et on apprend les crises économiques. Donc quand j'ai vu le confinement arriver et tout ça, je me suis dit, ok, on va être en crise économique, ça va être vraiment très compliqué pour moi. Et en fait, j'avais pas de plan B. Moi, je voulais pas continuer mes études, c'était sûr, j'en avais marre des études. Et je voulais pas forcément me trouver un travail parce que j'avais vraiment ce projet en tête, je voulais vraiment le faire. Et j'en ai parlé un peu à mes parents, à mes sœurs. Je leur ai demandé, vous pensez que même en crise économique, est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que je peux m'en sortir, quoi? Et après, les avis étaient partagés. D'un côté, il y avait ceux qui disaient, non, il faut que tu trouves un travail vite, que tu aies un CDI, parce que sinon, tu vas être dans le caca. Et de l'autre côté, j'avais par exemple ma sœur qui me disait mais vas-y, fonce, au pire ça marche pas, au pire les gens ils s'achètent pas, mais au moins t'auras essayé et tu perds rien, quoi. Donc vas-y. Et même ma prof, elle m'a dit si t'as pas peur de l'échec, vas-y, mais faut avoir les épaules solides, quoi, c'est tout. Et sinon, voilà.
Et c'était important pour toi de faire un métier ou de lancer une entreprise qui soit en accord avec tes valeurs?
Ah ouais.
Et avec ce en quoi tu crois, donc c'est-à-dire, et qu'il y ait une cause derrière?
Ah ouais, absolument. Mais en fait, moi, quand j'étais petite, on m'a toujours dit, surtout dans la vie, il faut faire un métier que t'aimes. Parce que déjà, ça donne du sens à ta vie, ça donne envie de te lever le matin, etc. Et il faut absolument que tu fasses quelque chose que t'aimes. Voilà, donc en fait, moi, toute ma vie, j'ai cherché un truc que j'aime. J'ai changé beaucoup de fois d'idées, je voulais être prof des écoles, etc. Et puis, quand j'ai découvert que je voulais vraiment être indépendante et que je voulais dépendre de personne, eh bien, je savais que je voulais créer mon entreprise et que, ouais, je sais pas.
Et donc bah... ça, c'est ce que t'aimes, mais du coup, ce que tu revendiques, ouais. En quoi, j'ai l'impression que c'est un truc un peu générationnel aussi, tu vois, de
ouais.
vouloir donner du sens dans ton travail, plus que oui. l'aimer, en fait, c'est vraiment lui donner du sens au niveau sociétal, quoi.
Ouais, en fait, c'est ce qui fait que j'aime ce que je fais, c'est que ça donne du sens à mon travail et puis je me sens utile à la société, aux générations futures. Je me dis, je fais quelque chose. C'est important pour moi. C'est...
Et tu te sens jamais découragée ou
Aussi. Ouais, si. Il y a eu, déjà pendant le confinement, il y a eu un énorme moment de doute où je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Déjà, l'administration, les impôts, l'URSSAF, etc. Enfin, ça fait peur, quoi. Quand tu sors de l'école et que direct, il y a tout ça qui te tombe dessus, ça fait... Moi, j'ai flippé, vraiment. Après, je me suis dit, au pire, t'as peur, mais c'est pas grave. Enfin, ça va aller si tu fais bien les choses.
Faut y aller, quoi.
C'est... Ouais, voilà. Il faut foncer, il faut pas trop réfléchir, parce que sinon, on est bloqué. Et ouais, faut y aller. Il faut pas réfléchir.
Comment tu l'as vécu, toi, justement, le confinement? T'étais où, avec qui
Alors, j'étais chez moi, avec mon copain. Et le truc, c'est qu'en fait, je le dis souvent, c'est que j'ai fait un moitié confinement toute seule et un moitié confinement avec mon copain. C'est parce que mon copain travaille dans un supermarché.
D'accord.
Et du coup, il a passé tout le confinement à travailler. Donc moi, toute la journée, j'étais toute seule et le soir, il était là. Et j'ai vu à quel point c'était dur, déjà, pour eux. Et en fait, au début du confinement, ils n'avaient aucune protection. Ils n'avaient pas de masque, etc. Du coup, j'ai pris ma machine à coudre et j'ai fait « Ok !» Et du coup, j'ai fait des masques pour tout le monde. Et voilà, je me suis occupée un peu comme ça. Et puis après, j'ai commencé à travailler encore sur mon projet. Et ça a été aussi un moment de développement personnel.
D'introspection.
Ouais, voilà, énorme. Parce que j'avais peur. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que la peur, c'était pas... Fallait qu'elle reste à sa place.
À l'état de peur, ouais.
Qu'elle me prenne pas toutes mes émotions et tout, parce que sinon, je ferais rien. Et puis, je commence à stresser. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je fais pas mon projet, j'ai rien. Enfin, j'ai pas envie de me trouver un travail juste pour avoir de l'argent. Je veux faire vraiment quelque chose qui m'anime, quoi. Qui... Et ouais, et du coup, ça a été ça. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même.
Mais je crois que tout le monde un petit peu... Enfin, c'est...
Ah ouais.
Tout le monde a bien cogité, je crois.
Ah ouais, je crois aussi.
Et du coup, tes produits, à qui ils s'adressent? À qui tu as envie de parler, en fait?
Mes produits s'adressent un peu à tout le monde. Après, c'est vrai que je fais des produits... majoritairement pour les femmes, vu qu'il y a quand même des cotons démaquillants, des serviettes hygiéniques, etc. Mais sinon, il s'adresse vraiment à tous ceux qui veulent mettre un peu la main à la pâte. C'est ça qu'on dit?
Ouais, c'est ça. Ouais.
La main à la pâte dans ce changement d'habitude, dans ce changement de consommation, plus raisonnable, plus durable, etc. Donc c'est vraiment... si vous voulez changer... Une habitude, juste par exemple, en plus ça se fait vraiment par étapes, genre tu peux pas directement du jour au lendemain devenir zéro déchet, c'est sûr que c'est pas possible, mais par exemple juste changer les bouteilles de gel douche par un savon solide, et t'as ta petite pochette pour l'emmener un peu partout avec toi, c'est un petit geste, mais tu te dis derrière c'est des bouteilles en plastique que tu consommeras pas, que tu jetteras pas. Et voilà, parce que généralement en plus les bouteilles de gel douche sont pas recyclables, donc ça finit souvent à la poubelle sans aucun avenir. Donc c'est un peu triste, quoi.
Et est-ce qu'il y a une habitude que tu as eu plus de mal à prendre et comment tu l'as adoptée si ça t'a bloqué un peu?
Bah, en vrai, je parle des gels douches, mais je crois que ça a été ça.
Ouais, j'ai l'impression que t'en parles beaucoup.
En vrai, ouais. C'était dur parce que tu sais, enfin, moi, j'ai vécu dans un truc où les gels douches, c'était moussant, il y avait des fleurs, du parfum de fou et tout. Et quand tu passes au savon, c'est pas aussi confortable. Enfin, tu te dis, bon, après, il y a des savons qui sentent très bon, etc. Hein, mais tu te dis, c'est pas aussi doux, c'est pas aussi, voilà, la peau, elle est un peu plus, mais bon, après, c'est une habitude. Hein. Moi, maintenant, je suis habituée. Je pourrais pas revenir au gel. En fait, je culpabiliserais tellement de revenir au gel douche en bouteille que j'ai même pas envie d'y retourner. Quoi. Je me dis, en fait, c'est un peu une fierté. Je suis fière de moi de me dire, ah ben, bah, je me lave avec un truc qui produit pas de déchets. Et ça, c'est plus fort que la senteur monoeil sur mon corps, tu vois. Enfin, donc, ça me dérange pas. Pas vraiment.
Du coup, c'est quoi ton rapport aux générations
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Futur, donc j'ai l'impression que c'est une sorte d'accueil que tu leur réserves en essayant de changer un peu les choses. Et aux générations un peu passées, quelle relation tu as avec eux comment tu les considères? Et parfois, tu sais, ils ont du mal à changer leurs habitudes, justement. Qu'est-ce que t'en penses
Mais c'est fou que tu me dises ça en plus, parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait un repas avec une génération passée. Et c'est vrai que quand j'ai présenté mes produits, ils ne comprenaient pas trop. Déjà, juste pour la serviette hygiénique, je sais qu'il y a une dame qui m'a dit « Ah mais moi, jamais de la vie, je pourrais recommencer à utiliser une serviette hygiénique lavable. C'était horrible et tout. » Et du coup, moi, j'étais là, je dis mais...
Oui, parce qu'il y avait une sorte de libération aussi de la femme avec les protections hygiéniques jetables, en fait, qui enlevaient aussi pas mal de soucis de lessive, etc. Ça, donc, en fait, à un moment où... On a été libérés, enfin moi je le vois sur plusieurs aspects de la vie, tu vois, un moment où les femmes ont été libérées par la pilule, etc. Et aujourd'hui que les femmes veulent revenir dessus parce qu'en fait elles sont plus d'accord avec ce que la pilule met dans leur corps.
C'est
un exemple parmi d'autres, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais oui, du coup, est-ce qu'elles ont peur d'un retour en arrière avec tout ça?
Ouais. Bon, après, cette femme-là n'utilisera plus jamais de serviette hygiénique, mais c'est vrai que elle voit ça vraiment comme... un retour en arrière, mais pas positif. Alors que le but, si, c'est positif, mais c'est pas pour le confort de la personne. Enfin, si, c'est pour le confort de la personne, déjà, parce que les serviettes hygiéniques, c'est bourré de produits toxiques. Mais en plus, pour la planète. Donc, moi, je suis pas vraiment d'accord avec elle. Après, c'est vrai que peut-être qu'on n'avait pas forcément les mêmes tissus ou les mêmes savoir-faire de faire une serviette ou quoi, je sais pas. Mais ouais, je sais
pas. Mais du coup, comment tu argumentes avec elle? Comment se passent vos discussions?
C'est très compliqué, parce qu'en plus, cette personne est assez butée, mais...
On l'embrasse.
oui, évidemment. Mais j'explique tout simplement que c'est... Nettoyer une serviette hygiénique, bon, c'est vrai, il y a du sang. C'est vrai que c'est pas super glamour et tout, mais déjà, c'est notre propre sang. C'est pas très grave. Enfin, moi, personnellement, je trouve pas ça très grave. Et puis, c'est quoi? C'est 10 minutes dans une vie, enfin, pour laver une serviette hygiénique, alors que une serviette hygiénique jetable, ça met 500 ans à se dégrader dans la nature.
Et du coup, est-ce que... tu veux continuer d'entretenir une parole avec les générations plus âgées ou veux continuer
mais
de
déjà,
ce
je
débat
veux, je veux montrer que c'est pas forcément un retour en arrière, c'est au contraire c'est une solution durable pour continuer à consommer les mêmes produits mais pas jetables lavables, etc. Et puis pour les générations futures, leur apprendre et de leur... Enfin, je sais pas comment dire ça, mais parce que nous, on a été éduqués comme ça, avec des produits jetables et tout, alors que peut-être que les générations futures, on peut directement les éduquer avec des produits lavables et durables. Donc, ça serait peut-être même mieux. Comme ça, ils n'auront pas à changer d'habitude brusquement et à changer de vie, quoi. Alors que les générations passées, c'est plus compliqué, mais évidemment que je veux continuer à parler avec eux et leur montrer que ce n'est pas compliqué. Il y a tellement de petits gestes au quotidien pour aider la planète que c'est vraiment pas compliqué. Enfin, moi, je me dis que si j'y arrive, tout le monde peut y arriver.
Est-ce que toi, du coup, tu te projettes dans avoir des enfants et leur transmettre une éducation comme ça?
Ouais. Ouais. Ben, moi, je me vois déjà avoir une maison, un potager, un truc et tout. Enfin, moi, j'aimerais vraiment beaucoup être autosuffisante. Mm-hmm. Donc, déjà dire adieu un peu au supermarché, aux grands centres commerciaux et tout, parce que c'est eux qui polluent le plus, quoi. Et ouais, mes enfants, c'est sûr, je pourrais pas les éduquer... à l'inverse de mes valeurs, enfin, c'est pas possible. Je sais pas si cette phrase est française.
Non, mais parce que je te pose la question, parce que c'est vrai qu'il y a un débat, tu vois, autour de est-ce qu'avoir un enfant, c'est écolo, tu vois. Toi, t'en penses quoi? Tu te situes où là-dedans? Est-ce que t'es plutôt, tu fais partie des pessimistes ou des optimistes? En te voyant, j'ai l'impression plus optimiste, mais...
On va pas se cacher, tout le monde le sait, un enfant, ça pollue. Mais comme nous-mêmes, on pollue, on respire,
on
pollue.
On est des enfants,
quoi.
À la base.
De base, on est des enfants, donc on pollue. Mais c'est vrai que c'est vraiment un débat très compliqué. Vraiment, je pense que je suis trop jeune pour répondre à ça, parce que un jour...
C'est pas encore dans tes préoccupations.
Ouais, voilà, déjà, là, aujourd'hui, j'ai pas comme projet d'avoir un enfant, donc ça se trouve, j'en aurai jamais, comme j'en aurai un ou deux. Mais c'est sûr que j'aurai pas de famille nombreuse pour être en lien avec mes valeurs. C'est pas possible d'avoir 46 enfants et dire je suis écolo à côté, alors que les couches, etc., même s'il existe des couches lavables, il y a quand même, je sais pas, ça serait encore plus compliqué de devenir zéro déchet avec beaucoup d'enfants. Je pense que déjà juste les machines à laver, l'eau et tout,
c'est tombé. C'est quoi ton rapport au futur, toi? Comment tu te vois dans le futur? À quel point t'as confiance en les gens pour suivre ton initiative et ton projet?
Alors, comment je me vois dans le futur?
Ouais. Est-ce que t'arrives à te projeter ou pas du tout? Ou t'es au jour le jour et on verra ce qui se passe?
En vrai, ça dépend des jours. Parce que... moi, je me vois... je veux continuer dans ce que je fais parce que j'aime ce que je fais et je donne un réel sens à ma vie et à mon travail. Donc, moi, dans l'idéal, j'aimerais beaucoup ouvrir une boutique physique où là, je pourrais rencontrer des gens, justement. Parce que finalement, sur Internet, c'est un peu plus compliqué de parler aux gens et de pas apprendre.
Oui, puis surtout, c'est sélectif, parce que c'est les gens qui veulent te suivre et qui te suivent.
C'est ça, exactement. Alors que si tu passes devant une boutique et tu dis « Oh tiens, ça a l'air sympa », et que tu rentres et que, on t'apprend plein de trucs. C'est mon projet de base, c'est ouvrir une boutique physique et rencontrer des gens et les accompagner dans cette consommation plus durable, etc. Pour l'instant, c'est une boutique
projet.
Physique, ouais. Et après, je me vois pas plus loin, je sais pas. Vraiment, c'est trop loin, là.
C'est clair. Et pour finir, du coup, je vais te poser la question que je pose à tous les gens qui passent dans 20 ans d'âge. Qu'est-ce que tu aimerais dire à l'ado que tu étais? C'est quoi... comment tu l'encouragerais?
Comment je l'encouragerais? Je lui dirais déjà de pas avoir trop peur. Parce que la peur, ça peut vraiment créer des blocages et on peut le regretter. C'est de travailler sur sa timidité plus tôt, parce que j'étais très timide et ça m'a vraiment porté préjudice à certains moments. Et que s'ouvrir aux autres, je sais pas.
C'est déjà bien.
Mais c'est une très bonne question.
Merci.
J'y ai même pas pensé.
Merci beaucoup en tout cas, Sarah, d'être venue dans 20 ans d'âge.
Merci.
C'était un plaisir.
C'était cool.
Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcasts et nous laisser un commentaire. À bientôt dans 20 ans d'âge.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.